Combes, Boubette, Petites gens. Chapitre 1, Monsieur Uzélim. Quant à lui, très anodin, très doux, il n'avait rien inventé. Mais son père, doué d'une imagination forte, à la naissance de chacun de ses enfants, avait composé pour le petit nouveau venu un nom parfaitement inédit. L'initiale U, on n'a jamais su pourquoi, lui semblait noble et pittoresque. Chacun des noms qu'il composa commençait par un U. Le premier fut Lucien, le second prenant un peu plus haut essor, Uzélim. Après cela, deux innocentes petites filles furent inscrites par le greffier de l'état civil, non sans protestation de la part de son fonctionnaire, sous les prénoms d'Ulina et d'Uzélobie. Ce qui n'empêcha pas cette dernière, dans le cours des années, de se marier. Son frère Lucien en fit autant, mais les deux autres restèrent célibataires, et, s'étant toujours bien entendu, associèrent finalement leur destinée. Ulina avait passé près de 35 ans à l'étranger, comme petite bonne d'abord, puis comme femme de charge et confidente. Revenue au pays avec d'assez rondelettes économies, elle avait trouvé son frère Uzélim fort embarrassé de sa personne et de ses biens, qu'il n'avait jamais osé offrir à demoiselle ni veuve, crainte de tomber sur une compagne d'un mauvais caractère. De son tempérament, il était timide, inquiet. De son état, bijoutier. Non pas bijoutier dans les hautes sphères de l'art, mais simple raccommodeur de bimbeloterie. Il avait travaillé à Genève, dans des maisons célèbres, et là, bientôt, avait dû constater que l'imagination artistique lui manquait. Ahuri, d'ailleurs, par le mouvement d'une ville, il regretta la tranquillité de son lieu natal, dont il n'en tarda pas à reprendre le chemin. Au bout de peu de mois, sans faire ni bruit ni réclame, il s'était gagné une réputation. Sa lenteur consciencieuse, sa délicieuse minutie dans mille petites besognes de soudure et de rhabillage, firent de lui l'homme indispensable, le réparateur de toutes sortes de catastrophes et de brèches. Ce qu'il passait par ses mains en une année, de broches sans épingle, de fermoirs détraqués, de petites cuillères cassées, d'agneaux disloqués, est incalculable. Les instances des mamans le firent chirurgien et oculiste de poupées. Et pour obliger le pauvre petit Bonnes en larmes, il recolla les porcelaines, il raccommoda de fragiles ombrelles, la branche d'ivoire, des bibelots, des serrures en révolte. Entre sa lampe à souder, son canari et la grande vitrine, où sur des lits d'ouates, broches et bracelets attendaient qu'on vînt les quérir, Uzélim coula des jours et des années parfaitement paisibles, plein de menus intérêts. Il gagnait largement de quoi vivre, et sans s'enrichir, faisait de petites économies. Subitement, tout cela changea. L'inquiétude et l'insomnie entrèrent chez lui, comme chez le savetier de la fontaine. Pour se défaire d'un courtier importun, il avait acheté quelques valeurs à l'eau, tout en se reprochant amèrement d'être trop bon, de ne jamais savoir dire non. Un beau matin, l'un des chiffons de papier se trouva valoir 5 000 francs. Son numéro était sorti, décrochant la prime. M. Uzélim en fut stupéfait d'abord, puis très content, puis un peu moins content, puis tout à fait perplexe. 5 000 francs, c'était bel et bon, mais qu'en faire? Les placer, c'est vite dit. M. Uzélim n'avait confiance qu'en la caisse d'épargne. Mais cette estimable institution, qui regorge de capitaux, avait déjà 3 000 francs à lui, Vous êtes obstinément de recevoir un centime de plus. Après cela, il y a le crédit agraire, qui repose sur un système d'hypothèque très compliqué. Rien que le mot d'hypothèque donnait la migraine à M. Uselim. Les banques, oh, on ne lit pas son journal pour rien. On y voit chaque jour combien le goût des voyages d'outre-mer se propage parmi les caissiers. Oui, mais alors, acheter des actions ou mettre son capital dans l'industrie. Monsieur Ulema s'abandonna à la Gazette du Commerce et la lut chaque mercredi matin en déjeunant. Sur cette entrefaite, sa sœur revint de Podolie. Ulima était petite, grasse, très impatiente et chroniquement essoufflée. Sans cet asthme qui la bridait un peu, elle eut perdu beaucoup l'occasion de ne rien dire, comme son frère le faisait placidement remarquer, car elle ne se taisait qu'à son corps défendant. Or, Nalène, à moitié suffoquée, quand ses quintes la prenaient, elle agitait encore la main pour défendre sa place dans la conversation jusqu'au moment de s'y réinstaller. Elle n'avait aucun goût pour la solitude. Dès qu'elle eut revu son frère, grisonnant, un peu voûté, elle lui déclara qu'il avait besoin d'être soigné par une sœur et son ménage d'être remis par un bon pied. Il y accéda tout de suite. Il avait toujours aimé Ulima, dont la pétulance bousculait son humeur un peu molle. Ils n'étaient pas ensemble depuis 15 jours. Uselim confia à sa sœur son gros souci, le placement d'une forte somme, 5 000 francs, qui dormait dans le secrétaire depuis plusieurs mois. « Sans rien faire, sans porter intérêt !» s'écrie-t-elle. « Eh bien, mon cher Uselim, tu es encore un drôle de capitaliste. Mets-les dans n'importe quoi, dans les chemins de fer, dans le gaz, ou bien à la banque, tout simplement, en attendant mieux. « Tu crois ?» fit-il d'un air perplexe. « Je serais bien aise de t'entendre. Nous en reparlerons. » Ils en parlèrent chaque jour, surtout le mercredi, quand la Gazette du Commerce arrivait. Ulima conseillait ceci ou cela. Elle donnait ses préférences à la métallurgie. « Le fer, c'est solide au moins. Une usine, une fonderie, cela ne s'évapore pas comme les valeurs de bourse. Rien de fictif, Uselim. Ne mets pas en argent dans le fictif, si tu m'en crois. Quand j'étais en Podolie, M. le comte avait coutume de dire que l'avenir est aux constructions en fer. À ta place, Uselim, j'écrirai à un ingénieur qui demande un commanditaire. « Bon, ça ne coûte jamais qu'un timbre, » faisait Uselim. Et il écrivait, et la réponse venue, c'était toute une affaire. Le soir, sous la lampe, les bandeaux argentés d'Ulima frôlant les mèches grisonnantes d'Uselim, de tourner et retourner cette lettre, d'examiner les garanties offertes. Le bureau, dans son coin, avait l'air tout modeste et innocent, sous le voile naïf crocheté en coton blanc dont les franges lui tombaient dans les yeux, pour ainsi dire. Personne ne se fût douté des capitaux qu'il contenait. Et le fauteuil américain, près de la fenêtre, gardait encore le léger balancement que lui avait imprimé en sautant sur son coussin rouge la grosse chatte blanche qui, pour se conformer aux traditions de la famille, portait avec grâce le nom d'Eugénie. Sur l'étrangère, on aurait pu voir, mais la lampe éclairait mal ce recoin, un œuf d'autruche orné de houppes de soie multicolores, au milieu d'une foule de ces chers petits bibelots absurdes, dont chacun parfois résume une longue phase du pauvre passé. L'œuf d'autruche, pour Ulima, résumait la Podolie, quoiqu'il n'en fût pas natif, comme bien on pense. Il avait été offert à la petite bonne, toute jeunette, 35 ans auparavant, par le courrier de Monsieur le Comte, un courrier qui avait vu d'étranges latitudes. Des souvenances tendres, amincies, pâlies, flottaient encore parmi les glandes et les cordons d'un rose fané mêlé de vert éteint. Un œuf d'autruche, c'est gros, c'est un peu bête, ça n'a rien de sentimental. Et chaque matin, cependant, Mademoiselle Ulima, époussant cet encombrant et cher souvenir, sentait une petite palpitation. C'était peut-être pour avoir levé les bras, tout bonnement. L'étagère et le fauteuil à balançoire, moins la chatte, constituaient tout le mobilier d'Ulina. Le reste, l'irrespectable et rebondi, chaises cannées, table monumentale dont le dessus de marbre gris vous glaçait rien qu'à le regarder, et pleine armoire de linge et pendule à grande sonnerie, tout cela, les petites épingles de broche l'avaient payé. Ouzélie n'en était pas plus fière et laissait sa sœur, dans ses jours de grand souffle, bouleverser le paisible ménage, placer en coin l'honnête canapé et disposer les chaises en quadrille, sous prétexte que notre salon était fait comme ça, en pot de lit. Le frère errait quelques instants parmi ses combinaisons nouvelles, regardait le canapé en secouant la tête, puis retournait à son établi qui, du moins, restait immuable, ainsi que la vitrine. En général, Boubette remettait tout en ordre le lendemain matin. Il faut savoir qu'en s'établissant chez son frère, Mademoiselle Ulima avait posé un ultimatum. « Tu le vois, mon pauvre Ouzélim, je ne suis plus aussi jeune qu'à 20 ans. Ah, par exemple, tu as vieilli aussi, tu t'es courbé, mais du moins tu as su rester maigre. Chez moi, l'asthme est venu avec l'embonpoint. Ah, le souffle, quelle belle chose! Tu ne t'en doutes pas, toi, tu n'y as même jamais pensé. J'y pense tout le temps, moi, pour l'économiser. Le docteur m'a dit au départ, « Parlez peu, n'agitez pas les bras, ne vous baissez jamais. » Il m'a défendu de me baisser, tu entends? Alors je te ferai ton ménage, et très bien, jusqu'à hauteur d'appui, mais pour se baisser, nous trouverons une personne. » La personne qu'on engagea pour se baisser était Berthe, appelée familièrement Boubette par tout le monde. La fille de Madame Chapatte, qui tenait un petit magasin d'épicerie au coin de la rue. Chaque matin, après avoir fait déjà la besogne la plus fatigante dans le ménage de sa mère, elle venait mettre à la disposition de Mademoiselle Ulima ses bras minces et laborieux, son jeune souffle et la jolie gaieté de ses 18 ans, le tout agrémenté d'un ruban vert d'eau dont Boubette nouait sa petite queue blonde et qu'elle perdait sans cesse dans la cour, dans l'escalier, dans la caisse à voix. Mais que vais-je parler de Boubette en ce moment? Le frère et la sœur, dans la chambre tranquillement somnolente, dont seuls sont seuls sous le large abat-jour à franges vertes, et discutent à demi-voix une lettre qui vient d'arriver. Ce sont les jeunes ingénieurs métallurgistes, illusionnés par le style grandiose de M. Ulysim, et s'imaginant qu'il a d'importants capitaux à placer. Ils exposent leurs projets, leurs espérances, leurs garanties. L'explication est fortement boulonnée de termes techniques et nécessite l'emploi du dictionnaire. C'est Ulina qui cherche les mots au fur et à mesure, et son frère attend, la lettre toute ouverte devant lui sur le marbre gris de la table, un doigt allongé vers le vocable inconnu. « Comment appelles-tu ça ? Bon, ah oui, voici. Hypocrite. Tu as dit hypostel ? Oh non, ça ne y est pas. Tu es sûr, fille Zéma, d'un air soucieux. Bien veux-tu que je te le dise ? Ça ne m'inspire pas de confiance. Ces jeunes gens cherchent à nous jeter de la poudre aux yeux avec des mots de leur invention. » « Mais de quel nez est-il ton dictionnaire ?» demanda Ulima, tournant les pages si impétueusement qu'un coin de feuille lui resta dans la main. « Voilà pour toi, recollé, » fit-elle en regardant son frère d'un air sévère, comme s'il eût été l'auteur du dommage. « Je remets le morceau à la place d'où il est tombé. C'est au mot chou, tu t'en souviendras pour le retrouver. Un dictionnaire de 1841. Ben, je vous demande un peu s'il a coulé de l'eau sous les ponts depuis qu'on l'a fait. La science a marché, ou Selim? Quand j'étais en Podolie, les conversations que j'entendais ne me tenaient au courant. Je suis même certaine que M. le Comte parlait souvent d'hypostèle. À juger par ce qui précède, cela se rapporte aux bâtisses en fer. Mais nous n'allons pas nous laisser arrêter par un mot. Allez, continue, Selim, continue. Moi, j'aime cette idée de bâtisses en fer. Le facteur vous apporte ça tout près, dans une caisse, en paquet bien étiqueté. Vous n'avez besoin que d'un tournevis, et voilà votre maison montée. Plus de maçons, plus de gâcheurs de chaux. C'est propre, et ça peut se faire en chambre. Mais c'est une innovation, dit Zélim en secouant la tête. Je préférais mettre mes capitaux dans une affaire bien assise. Moi, je favoriserais des commerçants s'ils offraient quelques garanties. Ils écrivent gentiment, ces petits ingénieurs, ils sont bien élevés. Une idée, Zélim, à ta place, je leur demanderai leur photographie. Pourquoi faire ? S'écria-t-il un peu effaré. Bien pour juger de leur mine. Je m'entends assez en physionomie. Je te dirai tout de suite, voilà une figure qui me revient. Ou le contraire. Un homme qui n'aurait pas de menton, fût-il 36 000 fois ingénieur, je te dirais, ne lui confie pas un centime. Le menton exprime la base du caractère. Monsieur le comte me l'a répété bien des fois. Mais crois-tu que cela se fasse en affaire, cette demande de photographie ? Objecta faiblement M. Zélim. Mais certainement, affirma-t-elle, cela se fait tous les jours. Si je leur proposais plutôt un échange, ce serait plus poli. J'enverrai notre dernière, nous sommes assez bien, toi, surtout appuyé sur cette colonne brisée. Oui, cela pourrait établir une confiance mutuelle, mais je ne sais trop si l'usage, murmura la sœur. Ulina n'aimait point devant son frère à paraître embarrassée. Elle changea d'entretien assez brusquement, se leva pour ouvrir la fenêtre, huma une odeur dans le quartier et se rappela tout à coup qu'elle n'avait plus de café grillé. « Si tu descendais m'en prendre une demi-livre chez Madame Chapat, » dit-elle à Zélim, « ça te ferait respirer l'air un moment, et pendant ce temps je réfléchirais. N'oublie pas de lui dire que le dernier était brûlé. Bon, je ne sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais c'est égal. Ça lui montrera que je ne suis pas femme à m'arranger de tout. » Zélim prit son chapeau, descendit, et d'un pas tranquille, d'homme qui a fini sa journée, il se dirigea vers le coin de la rue. Il aimait assez, depuis quelque temps, ses petites visites de voisin, Madame Chapat. C'était une femme d'une conversation agréable, qui savait vous mettre à l'aise, qui vous faisait valoir. « Ah, monsieur Zélim, je n'osais plus vous espérer. Il est tantôt 9 heures, j'allais fermer les volets, et je disais justement à Boubette, gageons qu'il aura promis un arabillage pour demain. » Et qu'il y passera la nuit plutôt que de manquer de femme, parole. Ah, pour un homme de parole, monsieur Zélim. Mais non, je vous assure, fit-il dans une grande confusion. Vous êtes trop modeste, c'est ce que dit chacun. Faites-moi le plaisir de vous asseoir une minute, j'ai un conseil à vous demander. Elle passa son tablier sur le petit divan de cuir tout battant neuf, qui meublait gentiment l'angle le plus intime de la boutique. Puis M. Zélim, s'étant assis, elle resta debout devant lui à le contempler d'un air rêveur. On disait de Mme Chapat, c'est une belle femme. Mais si l'on venait à la détailler, on ne trouvait plus que ses bandeaux. Irréprochable, d'un noir de jais, lustré comme un satin, ondulé sur leurs bords et gonflé dans le milieu, c'était de vrais chefs-d'œuvre qui attiraient l'œil et le retenaient captif. Quand on parlait à Madame Chapat, instinctivement, on s'adressait à ses bandeaux, et l'on s'en allait en portant une idée très vague du reste de sa personne. Il y avait dans cette coiffure impeccable comme l'indication d'une supériorité, quelque chose d'impérial, qui produisait son effet sur les timides. M. Iseli mettait de cela, et vaguement il attribuait à Mme Chapatte de grandes capacités. Cependant, le silence où demeurait cette dame finit par le gêner un peu, et il dit, frottant avec lenteur un de ses favoris grisonnants, c'était une petite manie qu'il avait, comme pour s'assurer que le favori était toujours à sa place, M. Ezelim était plein de ses petites manies douces. Un conseil, Mme Chapatte, oh, volontiers, si c'est dans mes moyens. Mais comme elle demeurait immobile et absorbée, il sentit sa gêne augmenter. Pour endurer obstinément l'ennui d'un de ces longs silences, il faut être plus fort que ne l'était M. Ezelim. Le premier qui parle est celui qui se soucie le plus de l'opinion de l'autre, et il est par conséquent, en raison même de sa politesse, de son amabilité, battu d'avance. M. Iselim parla. « Sur quel sujet? Il ne s'agit pas d'un placement d'argent » fit-il d'un ton de plaisanterie. « D'argent, non, non, » fit Mme Chapatte, sortant de sa rêverie. Ensuite, elle parut regretter ce non par trop catégorique. Elle poursuivit, après avoir pris un tabouret près du comptoir sur lequel elle s'accouda. « Quoique je ne doute pas que vous ne puissiez me donner un excellent conseil, même s'il s'agissait d'un placement d'argent. Un homme comme vous est au courant des questions financières. »« Très peu, Madame Chapatte, très peu. Rien n'est sûr, rien n'offre de garantie suffisante. » « Oh, on est parfois bien embarrassé !» fit-il avec un grand soupir. Madame Chapatte le regarda un instant, puis baissa les yeux, comme si dans sa mémoire elle inscrivait une note. « Quant à moi, » fit-elle gaiement, « je n'ai pas de tels soucis. Tout mon avoir est dans le riz, dans les cafés, dans les sucres. J'achète, je vends, mes tiroirs se vident, je les remplis de nouveau. » Mon argent fait ainsi sa ronde 4 ou 5 fois par an. Et puis, on l'a toujours sous les yeux, n'est-ce pas? On compte sa caisse chaque soir, on fait peu de crédit. Le capital est toujours là, ou bien son équivalent, en bonne dorée coloniale. Les yeux de M. Iselim erraient par la jolie boutique reluisante, peinte à neuf, car Mme Chapatte l'occupait depuis 6 mois à peine. Il se portait dans la pénombre, sur les étiquettes des tiroirs, des bocaux sur les rayons de mercerie, que des boutons de porcelaine étoilaient d'innombrables petits yeux sur les pains de savon empilés en blanche architecture. Du café, du sucre, il en faudra toujours, ce n'est pas affaire de mode, ajouta sentencieusement Mme Chapatte. Et sur cet aphorisme, M. Iselim devint rêveur à son tour. Mais d'un petit air sémillant, son interlocutrice le ramena à leur point de départ. Bon, « Oui, excusez-moi, le sujet de mes affaires n'est pas pour vous aucun intérêt. Je voulais vous parler de ma petite Berthe. Vous et votre sœur, vous avez été très bons pour elle. Eh bien, imaginez que cet enfant a un amoureux. Oh, très petit, très jeune, mais enfin, il assure que ses intentions sont sérieuses. » Vous qui connaissez tout le monde, le connaissez-vous? Moi, je suis trop neuf dans l'endroit, j'ai besoin qu'on me renseigne. Il s'appelle Amémoutet, il est typographe.